décryptage. Anne Cantner.
Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Décryptage. Nous parlons ce soir de la colère des manifestants contre le racisme aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe. Une colère qui ne se concentre plus seulement sur la police après la mort de George Floyd, mais aussi sur les statues de personnalités liées à la colonisation ou à l'esclavage. Des statues renversées, jetées à l'eau ou recouvertes de peintures rouge sang, comme celle du roi Léopold II en Belgique, roi qui avait fait du Congo sa propriété privée. Faut-il faire tomber les statues pour en finir avec le racisme? On en parle pendant les 20 prochaines minutes. Bienvenue! Je reçois deux invités pour évoquer cette question. Bonsoir Jacqueline Lalouette.
Bonsoir madame.
Vous êtes professeure émérite à l'Université de Lille, historienne et spécialiste des questions politiques et religieuses dans la France contemporaine. Nous sommes en ligne également avec Nicolas Bancel, historien, professeur à l'Université de Lausanne en Suisse et co-auteur avec Pascal Blanchard de Décolonisation française, je précise que c'est au pluriel. Le livre est paru aux éditions Lamartinière au début de l'année. Bonsoir Nicolas Bancel.
Bonsoir.
Et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir.
Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires.
Voilà ce qu'a dit le président français hier soir. Alors, déboulonner une statue, est-ce effacer les traces, Jacqueline Lalouette?
Eh bien, c'est au moins les retirer de l'espace public de manière temporaire ou définitive. C'est bien effectivement rendre invisible l'effigie d'hommes à qui l'on reproche sur des critères contemporains des actions accomplies souvent plusieurs siècles plus tôt. Donc les rendre invisibles, c'est bien une manière de les effacer et d'effacer l'histoire par la même occasion.
Notre invité Afrique ce matin, le chercheur Éric Deroux, disait sur notre antenne qu'on avait, enfin en l'occurrence que le président Macron avait trop souvent mélangé histoire et mémoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Bancel?
Oui, on peut dire ça, effectivement, puisqu'il a, il a plusieurs fois, moi je suis un historien de la colonisation, et c'est vrai qu'il a marqué, je dirais, le début de son mandat par une déclaration fracassante sur en déclarant donc l'histoire coloniale, c'est un crime contre l'humanité. C'est une déclaration effectivement lapidaire, on peut dire, puisque la colonisation est un processus très multiple, très complexe. Il y a effectivement des crimes contre l'humanité dans la colonisation, mais enfin la colonisation, ce n'est pas que ça. Alors le mérite de cette déclaration pour moi, c'était effectivement qu'on mettait les pieds dans le plat, en quelque sorte, de cette histoire, de cette mémoire coloniale qui est encore assez peu assumée en France, et ça avait le mérite, on va dire, d'ouvrir un débat qui était resté longtemps clos.
Alors, un débat ouvert, nous dites-vous, il a été question donc hier soir de ces dégradations, de ces attaques, de ces mouvements de colère contre les statues en Europe et aux États-Unis. Ce matin, la porte-parole du gouvernement français a été plus nuancée que le président. Ce matin, chez nos confrères de France Inter, elle expliquait qu'en fait, ça dépendait un peu du personnage. Est-ce que vous pensez, Jacqueline Lalouette, qu'il est possible de faire le tri, entre guillemets, entre des personnalités dont il faudrait garder les statues et dont les noms devraient rester attribués à certaines rues, à certaines salles, à certains monuments, et d'autres qui devraient être totalement bannis de l'espace public?
Alors, il est sûr que certaines personnalités posent un problème plus important que d'autres. Et je pense notamment à Léopold II, qui a plusieurs statues ou qui avait plusieurs statues en Belgique, notamment à Bruxelles et à Anvers, et la qualité de propriétaire privé du Congo de ce souverain et le souvenir de la terreur qui a régné sur le Congo quand Léopold II donc en était le propriétaire, c'est quelque chose de proprement terrifiant. Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée que l'on puisse faire un tri. Qui ferait le tri, sur quels critères? Aucune statue ou très peu de statues sont réellement consensuelles. Et il y aura toujours des gens pour reprocher à X ou à Y d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Vous avez bien vu ce qui est arrivé récemment avec les pétitions contre les statues de Gandhi, accusé d'être un prédateur sexuel, accusation qui avait été portée il n'y a pas si longtemps que ça contre le peintre Paul Gauguin. On n'en finit pas. Mais il est sûr que certaines personnalités font vraiment problème.
Alors, certains des manifestants qui ont fait tomber une des statues dont on peut imaginer qu'elle pose vraiment problème, qui est celle d'un marchand d'esclaves à Bristol en Angleterre, ont expliqué que sa place n'était pas dans la rue, mais plutôt dans un musée. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, Nicolas Bancel ?
En fait, je suis assez partagé, bon, parce que cette problématique des statues là, qui nous tombe dessus un peu brutalement, elle vient des États-Unis en fait, hein, elle vient de l'histoire de l'esclavage, puisque à partir des années 1880, après la guerre de sécession, bien après la guerre de sécession, les États du Sud ont érigé de nombreux monuments à la gloire des généraux confédérés. On ne parle pas de quelques monuments, hein, il y en a aujourd'hui à peu près 1500 aux États-Unis, donc c'est un vrai sujet mémoriel. Et certains historiens américains estiment que les sudistes ont en quelque sorte gagné la bataille de la mémoire. Et les déboulonnages des
statues... Je précise pour nos auditeurs que tout ce à quoi vous faites référence, ça date de la période de la guerre de sécession, et les États confédérés, c'était les États du Sud, esclavagistes, oui, et qui défendaient l'esclavage.
Tout à fait. Et ce qu'on reproche en fait à ces statues, bon, c'est d'une part de symboliser évidemment l'esclavage, mais au-delà de l'esclavage, puisque par exemple il y a une statue de Nathan Bedford Forrest, qui est le fondateur du Ku Klux Klan, qui se trouve aujourd'hui quand même au Capitole, donc ce sont des symboles très forts. Et on peut comprendre, en tout cas on peut analyser cette réaction comme une demande en fait sociale, que cette histoire qui était longtemps masquée, il faut bien le dire, celle de l'esclavage comme celle de la colonisation, ressurgit dans l'espace public. Maintenant, ma position est assez claire sur les statues, je vais sans doute rejoindre en partie ma collègue. Je pense que ces statues, on ne doit pas les déboulonner. On ne doit pas les déboulonner parce qu'elles sont des témoignages de l'histoire. Et les effacer, les faire moisir dans un musée, si vous me permettez cette expression, c'est un peu quand même l'idée d'arraser l'histoire, de repartir sur une histoire, entre guillemets, pure, débarrassée de ses scories, fonder une nouvelle époque dans une espèce d'utopie de la transparence. Et je pense que c'est assez dangereux. Par contre, il est évident que ces statues posent problème, beaucoup d'entre elles posent problème. On pense à celle de Colbert, par exemple, effectivement, rédacteur du Code Noir, lui-même mêlé à la traite atlantique. On peut en citer d'autres, évidemment, qui posent tout autant de difficultés. Il me semblerait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent, d'une certaine manière, de contextualiser ces statuts, c'est-à-dire pourquoi pas de repenser des dispositifs pédagogiques qui pourraient être par exemple des totems à côté des statuts, on peut penser à des projections, on peut penser à des tas de choses, mais qui disent pourquoi elles ont été érigées, quels ont été plutôt les rôles de ces hommes, parce que ces rôles sont parfois divers. On voit par exemple aujourd'hui des militants demander le déboulonnage de la statue de Jules Ferry. Bon, Jules Ferry, c'est un personnage que je connais bien évidemment, c'est effectivement le promoteur de la conquête du Tonkin, c'est celui qui relance véritablement les conquêtes coloniales dans les années 1880. Mais enfin, c'est pas que ça, Jules Ferry, c'est aussi le fondateur de l'école publique, l'un des fondateurs de la Troisième République. Donc c'est un personnage, je dirais, à multiples facettes. Et il me semblerait intéressant donc de concevoir des dispositifs qui expliquent aux gens quelle a été l'histoire de ces personnages, dans quel contexte ils ont agi, en pesant, je dirais, le pour et le contre, en tout cas en arrasant pas toute la polysémie finalement de ces personnages, quel qu'ait été leur rôle, parfois funeste.
Ce qui permettrait d'éviter peut-être un problème qui se pose au sujet de certaines de ces statues. Vous nous parliez des États-Unis. Aux États-Unis, certaines d'entre elles sont parfois manipulées par l'extrême droite raciste. C'est le cas aussi, vous l'avez évoqué, du drapeau confédéré qui était celui des États esclavagistes du Sud. Et c'est vrai, Jacqueline Lalouette, que les suprématistes blancs en font parfois des symboles de ralliement.
Oui, c'est exact. Mais je voudrais d'abord revenir sur un point précédent. Ce qui est en train de se passer actuellement n'a rien de nouveau et n'est pas lié au mouvement des États-Unis. Il l'est pour le moment, mais il faut penser aux abattages de statues qui ont été constants au fil des siècles. Il faut penser à l'iconoclasme Nikno. Il faut penser aux destructions de statues de la Révolution française. Il faut penser aux destructions de statues qui ont eu lieu à une échelle beaucoup moindre à divers moments du 19e siècle, par exemple en 1830. Donc c'est un phénomène qui surgit dans un contexte nouveau, mais qui n'a strictement rien de nouveau. L'abattage des statues, c'est quelque chose qui a rythmé la vie des peuples et la vie des civilisations. Alors, j'aimerais aussi dire, pardonnez-moi, je ne réponds pas à votre question, mais j'aimerais aussi
Allez-y, je vous en prie, on aura l'occasion d'y revenir.
Que mettre des panneaux explicatifs comme à côté des statues, comme cela est suggéré maintenant à maintes reprises, ça risque fort d'être un coup d'épée dans l'eau. Parce que bon, j'ai beaucoup travaillé sur les statues, j'ai publié un livre sur les statues en France, sur pratiquement près de 4000 statues. J'ai eu maintes fois l'occasion de constater que les gens ne s'intéressent pas aux statues, qu'ils ne les regardent pas, qu'ils ne lisent pas les inscriptions. Donc mettre un panneau explicatif à côté, c'est risquer d'avoir exactement le même phénomène. Je pense à tous les panneaux d'Histoire de Paris qui sont dans les rues de Paris, mais qui vraiment les lit, qui les regarde? Donc, en revanche, mettre des totems à côté ou mettre des monuments à côté, ça c'est plus intéressant. Et notamment, élever des monuments à des gens qui ont souffert de la colonisation, qui ont souffert de l'esclavage ou qui ont combattu pour libérer les esclaves. Je pense à Louis Delgrès, je pense à Toussaint Louverture qui a ses statues en France, et je pense aussi à des statues d'esclaves. La mulâtresse Solitude, l'esclave Gertrude, l'esclave Géréon, ils ont leurs statues en France.
Puisque vous en parlez, Jacqueline Lalouette, je voulais vous entendre justement sur ce point. Vous nous le disiez, le débat n'est pas nouveau. On reviendra plus tard à l'utilisation raciste qui peut être faite de certaines statues. Mais puisque vous nous parlez de l'ancienneté du phénomène, avant même la mort de George Floyd, des manifestants avaient fait tomber des statues de Victor Schœlcher en Martinique. Alors, à première vue, ça peut un peu surprendre puisqu'il est à l'initiative de l'abolition de l'esclavage en France. Mais ce qui dérange, c'est... ça rejoint un peu ce que vous commenciez à évoquer, c'est que l'histoire officielle occulte la mobilisation des esclaves eux-mêmes sur l'île de la Martinique.
Oui, ça c'est vrai. Ce qu'on reproche, bon, les deux statues de Victor Schœlcher à Fort-de-France et à Schœlcher, qui avaient déjà été vandalisées antérieurement, d'ailleurs en 2013, celles de Schœlcher du moins, ont été abattues le 22 mai, c'est-à-dire 3 jours avant la mort de George Floyd. Après, on a reconnecté les choses ensemble, mais c'est antérieur. Et le 22 mai, c'est la date d'une révolte des esclaves qui savaient que le décret d'abolition de l'esclavage allait arriver et qui étaient impatients de leur libération. Il y a eu une révolte, les esclaves l'ont emporté d'une certaine manière, et dès que le nouveau gouverneur de l'île qui est arrivé avec le décret d'abolition qui devait être actif à partir du 3 août, eh bien, il a trouvé des esclaves qui s'étaient libérés eux-mêmes. Et ça, effectivement, ce n'est pas assez mis en avant. On parle beaucoup de Victor Schœlcher, on parle beaucoup moins d'un abolitionniste originaire de la Martinique, Cyril Bissette, qui a beaucoup combattu dans les années 1820, 1830, 1840, en effet.
Et qui a joué un rôle essentiel. Et les mêmes reproches sont aussi adressés à la manière dont est racontée la décolonisation. Beaucoup estiment qu'on ne met pas assez en avant. Beaucoup pensent que, en fait, soit on ne met pas assez en avant, voire on occulte complètement les luttes de pays colonisés, les figures qui se sont mobilisées contre le colonisateur, Nicolas Bancel.
Oui, tout à fait. Là, je rejoins entièrement ma collègue, d'une part, sur le fait qu'on peut effectivement utiliser l'espace public pour mettre en contexte ces statues, effectivement, ériger des totems, mais trouver des méthodes, effectivement, qui soient modernes, qui soient attirantes, qui soient véritablement interactives. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il ne s'agit pas seulement, évidemment, de mettre des plaques commémoratives. Ça n'a pas grand sens aujourd'hui. Et quant au fait que, effectivement, il serait tout à fait judicieux d'ériger des monuments à des gens qui se sont battus contre la colonisation, qui ont lutté contre l'esclavage, ça me paraît absolument indispensable. Et c'est vrai que à travers l'histoire des statues qui ornent nos rues, on a un peu l'histoire en quelque sorte de d'une certaine mémoire, hein, qui est une mémoire, on va dire, une mémoire dominante, une mémoire étatique. Et il faudrait faire place effectivement à l'histoire dans sa complexité, à l'histoire aussi des opprimés, parce que évidemment c'est souvent les opprimés qui sont les oubliés de ces œuvres monumentales. Et ça permettrait, je pense pas qu'il y ait d'équilibre à trouver, mais je pense que ça serait là aussi intéressant de la même manière de faire œuvre d'historien. Pourquoi ? Parce que ces espaces publics qui sont colonisés aujourd'hui par ces monuments, il faudra en faire en fait des espaces véritablement de connaissance, c'est-à-dire transformer la perception même du lieu, expliquer pourquoi, par exemple, la statue de Colbert se trouve devant l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça peut paraître au premier abord très gênant que la statue de Colbert orne comme ça le devant de l'Assemblée nationale, mais il serait tout à fait intéressant d'expliquer aussi pourquoi elle se trouve là. Donc là, je crois qu'on se rejoint d'une certaine manière, et ce serait une manière, me semble-t-il, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus utile, de changer le sens de ces lieux, tout simplement en les transformant.
Au-delà des symboles qu'on évoque depuis tout à l'heure, est-ce que les responsables politiques ont su, selon vous, Nicolas Bancel, établir un discours, peut-être même un rêve commun, à la fin de la colonisation en Europe ou à la fin de l'esclavage et de la ségrégation aux États-Unis ?
Non, je ne crois pas. En tout cas, pour ce qui est de la colonisation, je ne le pense vraiment pas, puisque après les décolonisations, en fait, on a procédé, bon, on était sous le gouvernement de Gaulle, on a procédé un petit peu comme après 1945, c'est-à-dire qu'on a effacé finalement les stigmates de la collaboration active de ce qu'on appelait alors l'État français. Et de la même manière, après les décolonisations, on a passé très vite en fait sur l'histoire coloniale. Notamment, il y a dans les manuels scolaires, elle n'a pas été totalement ignorée, mais enfin jusqu'aux années 90, elle était quand même largement marginalisée. Et je pense que ça, c'est un défaut de perception. On a voulu croire finalement que la colonisation n'affectait en quelque sorte que des espaces extrêmement lointains et qu'elle n'avait pas de répercussions sur la France. On se rend compte aujourd'hui avec des travaux innombrables, que ce soit en France, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Allemagne, que la colonisation, évidemment, elle résonne dans les pays, dans les métropoles coloniales. Et c'est ça qui nous permet aussi d'expliquer, d'une certaine manière, certains traits de notre présent. Pourquoi aujourd'hui un racisme qui est quand même très fortement ancré dans la colonisation persiste-t-il ? Pourquoi les discriminations, là aussi, touchent prioritairement des populations qui ont, par leurs lointains ancêtres, des liens avec la colonisation ? Pourquoi ces images, toute cette culture coloniale qui a hérité l'Europe pendant des décennies, continue-t-elle à produire ces effets néfastes ? Alors bien sûr, il y a des évolutions, hein, qui n'est pas égale par ailleurs, mais enfin, cette connaissance de la décolonisation nous permettrait, je pense, de nous poser des bonnes questions sur notre rapport à l'immigration, aux pays du Sud, aux inégalités, aux discriminations. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas fait, effectivement.
Je vous remercie beaucoup, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Jacqueline Merci. Lalouette, professeure émérite à l'Université de Lille, historienne et spécialiste des questions politiques et religieuses dans la France contemporaine. Et Nicolas Bancel, historien, professeur à l'Université de Lausanne et co-auteur avec notamment Pascal Blanchard de « Décolonisation française » publié en janvier dernier chez La Martinière. Merci à toute l'équipe qui prépare et qui réalise cette émission, Joël Fonferrier, Éléonore Krenig, Gérard Perrault et Patrick Adam pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée à l'écoute de RFI. C'est l'heure du débat du jour.